Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Il se peut qu'il y ait eu des malentendus au début. Vous avez, pour toutes celles et ceux qui m'ont croisé, à travers le grand débat et beaucoup d'autres, j'espère pu découvrir que j'aimais malgré tout beaucoup de ce qui est votre action. Et je pense qu'il y a d'ailleurs peu de mes prédécesseurs qui ont passé autant de temps à débattre avec les maires partout à travers la France.
C'était Emmanuel Macron hier à Paris devant des milliers de maires réunis à l'occasion du 103e congrès de l'Association des maires de France. Le président de la République avait reçu nombre d'entre eux au palais de l'Élysée mardi. Alors ce congrès était le premier depuis les élections municipales de 2020, également le dernier du quinquennat d'Emmanuel Macron et le dernier du président de l'AMF. Quand il est arrivé à l'Élysée, le chef de l'État a braqué les élus de terrain, puis le fil s'est ensuite renoué avec la crise des Gilets jaunes et le grand débat national. Il y a maintenant la question de la nationalisation de la facture de la crise sanitaire supportée par les communes, chiffrée aux alentours de 5 à 6 milliards. Ils ont été en première ligne, ces maires, lors de la crise sanitaire. Ont-ils les coudées franches ou ne sont-ils que des relais de l'exécutif? Que leur reste-t-il aux maires? Quelle est leur marge de manœuvre? C'est la question du débat du jour sur RFI.
RFI.
Bonsoir Sylvain Berrios.
Bonsoir.
Maire de Saint-Maur-des-Fossés, commune située dans le Val-de-Marne, près de Paris. Une ville d'environ 80 000 habitants. 80 000 âmes, c'est aussi la population du département qu'est la Lozère. Entre Massif Central et Cévennes se trouve la commune nouvelle Mont-Lozère et Goulet, dont vous êtes le maire, Pascal Bory. Bonsoir.
Bonsoir.
1084 habitants seulement, répartis entre 6 communes, dont Chasserades. Bonsoir Thomas Frineau.
Bonsoir.
Maître de conférence en sciences politiques à l'université Rennes 2, vous avez coordonné l'ouvrage « Nouvelle sociologie politique de la France ». Également dans ce studio, Jean-Victor Roux. Bonsoir.
Bonsoir.
Administrateur territorial, chargé d'enseignement à Sciences Po Expo-en-Provence. Et vous êtes l'auteur du livre « Les Sentinelles de la République » aux éditions du CERF. Ces sentinelles, bien évidemment, ce sont les maires. Alors l'AMF a changé de direction lors de ce congrès, François Baroin ayant décidé de prendre du recul après 7 années de mandat. Il y a eu une compétition inédite et même musclée parfois pour être élu à la présidence de cette influente organisation. Finalement, c'est le maire LR de Cannes qui a été préféré à Philippe Laurent, maire centriste de Sceaux. Mais au-delà de la personnalité des deux prétendants, ce sont deux manières opposées d'appréhender les relations avec Emmanuel Macron qui s'affrontaient, Jean-Victor Roux.
Alors effectivement, et puis il y avait des soutiens qui étaient très différents derrière ces deux personnalités. David Lisnard était à la tête d'une liste qui coalisait différentes forces politiques, puisqu'il était soutenu par André Léniel, premier vice-président de l'AMF, qui est socialiste. Il était aussi soutenu par des élus de toutes les obédiences, des communistes jusqu'à LR. Il avait le soutien de Gérard Larcher, le président du Sénat. En face de lui, Philippe Laurent, lui, était soutenu davantage par des maires proches du chef de l'État et des maires de centre-droit compatibles avec la majorité présidentielle, notamment ceux qui s'inscrivent dans le mouvement d'Edouard Philippe Horizon.
Alors donc, quand on fait toujours le départ entre local et national, notamment à l'occasion d'un scrutin local, là, finalement, on retrouve ce débat lors de cette élection du président de l'AMF, Thomas Frineau.
Alors, je pense qu'on a eu quand même une compétition d'une intensité inédite, en quelque sorte, dans cette guerre de succession. Une extrême politisation et finalement une transposition des enjeux et des clivages du champ politique national sur ce scrutin. Et dans le fond, ça a été dit précédemment, on a eu un peu affaire à une opposition entre l'ancien monde, si on utilise des expressions galvaudées, qui s'est serré les coudes, avec une alliance objective entre LR et le Parti Socialiste, qui sont deux forces politiques qui résistent bien au niveau local et qui font alliance contre, finalement, le candidat qui a été soutenu par la majorité présidentielle. Et dans le fond, c'est la suite des échecs répétés, finalement, de la majorité présidentielle dans les scrutins locaux, ceux des municipales, ceux des départementales, ceux des régionales. Donc la majorité présidentielle pouvait espérer se refaire, en quelque sorte, une santé, et bah, c'est un nouvel échec, en quelque sorte, qu'elle essuie.
Pascal Bory, au fin fond de la Lozère, si vous me permettez cette expression, est-ce que ce qui s'est passé au parc des expositions de la Porte de Versailles vous a intéressé?
Alors j'avoue, et vous avez bien employé l'expression au fin fond de la Lozère, personnellement je me suis senti très très loin de ce qui s'est passé effectivement.
C'est-à-dire que les thématiques n'étaient pas celles qui vous intéressaient? Ces rapports de force-là ne vous intéressent pas?
Quand on est une petite commune du monde rural, on est le nez dans les dossiers, dans le travail quotidiennement. Et on a du mal, effectivement, de temps en temps, à s'intéresser à ce qui se passe dans les sphères un petit peu plus hautes. On les oublie, on laisse passer les rendez-vous. Et c'est vrai que là, j'avoue que j'ai un peu décroché. Là.
Est-ce que c'est votre cas ou non, Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne?
Je suis... également plutôt un mauvais élève de l'AMF. On ne peut pas dire que je participe beaucoup au débat, parce que c'est effectivement assez loin des préoccupations quotidiennes d'un maire. Mais néanmoins, je ne rejoins pas l'analyse tout à l'heure. Ce n'est pas l'ancien monde, le nouveau monde. Ce n'est même pas une conception de transposition des débats politiques nationaux. C'est plutôt une conception de la République qui s'opposait, avec d'un côté ceux qui considèrent que la... que les communes ont une légitimité qui n'a rien à envier à celle d'un président de la République. On est élu sur des territoires avec des problématiques qui sont celles des habitants, et que ça doit être respecté. Et puis de l'autre, une conception où la présidentialisation s'exerce à tous les niveaux, où on considérerait que les maires ne seraient que des courroies de transmission. Ce sont deux conceptions qui ne relèvent pas du monde et de l'ancien monde, mais qui relèvent d'une conception de la République et de son organisation.
Avec l'élection donc de M. Lisnard à la tête de l'AMF, est-ce que cela fait de l'association, une force anti-exécutif, Thomas Frinaud ?
Anti-exécutif, non, et ce n'est pas la vocation de l'AMF, historiquement.
Ah, on vous entend difficilement, on est en train de vous perdre. Bon, je vous pose la question à vous, Jean-Victor Roux, la même.
Alors, en tout cas, il y a une nouvelle donne à la tête de l'AMF, puisque quand on regarde les prédécesseurs de David Lisnard, il n'ambitionnait pas une carrière politique nationale, et il ne se rêvait pas forcément d'un destin national, quand on prend des gens comme Jean-Paul Delevoye ou comme Jacques Pélissard. Là, indéniablement, il y a quelque chose de nouveau, puisque David Lisnard avait laissé planer le doute sur son intention de participer à la primaire Les Républicains, et on sait qu'il a des ambitions nationales. Après, il est certain que l'AMF est une association qui défend les élus, donc quel que soit le pouvoir, elle a vocation à faire entendre leur voix et éventuellement à s'opposer lorsqu'il y a des réformes, notamment sur la fiscalité locale. Ça a pu être le cas sous le mandat de Nicolas Sarkozy, sous le mandat de François Hollande, sous le mandat d'Emmanuel Macron. Donc c'est une association qui, de toute façon, quelle que soit sa présidence et quel que soit le pouvoir exécutif en face, portera la voix des maires et fera tout ce qui est en son pouvoir pour les défendre.
Thomas Frinaud, maître de conférence en sciences politiques, oui, à l'Université de Rennes.
Oui, je pense que ça n'est pas une association qui a vocation traditionnellement à représenter effectivement un camp politique davantage que l'autre, c'est certain, mais on ne peut pas ignorer quand même les jeux politiques parce que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, sur l'alternative dans la conception en fait du rôle de l'AMF et la présidentialisation, je rappelle quand même que le candidat soutenu par la majorité présidentielle, pour le coup, a longtemps été, je dirais, un partenaire et un partenaire très étroit de LR, des gens qui étaient à l'AMF. Il faut rappeler quand même qu'il a été secrétaire général de l'AMF, qu'il occupe des positions centrales dans l'AMF depuis longtemps. Donc on ne peut pas mettre en doute, en quelque sorte, Philippe Laurent dans la manière dont il se représente le rôle de l'AMF par rapport à ceux qui se sont réunis derrière David Lisnard. Donc s'ils se sont opposés, je ne crois pas que ce soit sur des conceptions de ce qu'est le rôle du maire ou de l'AMF. C'est quand même, dans un jeu politique, me semble-t-il, extrêmement conjoncturel.
Alors l'intitulé de ce 103e congrès disait beaucoup « Les maires en première ligne face aux crises ». Il faut dire que les 35 000 maires de France viennent de connaître 4 années de crises successives avec le mouvement des Gilets jaunes, l'épidémie de Covid-19, puis ses conséquences économiques et sociales. Le Covid au quotidien, ça a d'abord été des choses très concrètes, mises en place par les maires, Sylvain Berrios, approvisionnement en masques, respect du confinement, etc.
Oui, les maires ont été dès le début au cœur du dispositif, sans attendre aucune instruction d'ailleurs. Il s'est agi de, dans une situation de crise, bien sûr de trouver des masques, bien sûr de trouver des tests, bien sûr, mais surtout de venir en aide à la population. Je vous rappelle que pendant le confinement, les uns et les autres étaient enfermés chez eux, et les plus fragiles étaient seuls enfermés chez eux. Et que ces personnes-là, les plus fragiles, il fallait bien les aider. Ce sont les maires qui ont été les faire, sans aucune autre instruction que et le bon sens et le sens de l'intérêt général dans une situation de crise. Et c'est d'abord ça, ce qu'ont fait les maires. Il y a eu un confinement. La décision de confinement appartient pour le coup à l'exécutif et personne n'en disconvient. Mais ensuite, il faut continuer à faire fonctionner, si je puis dire, la machine de solidarité dans une commune ou sur un territoire lorsqu'une crise comme cela s'éveille. Et c'est là où les maires ont un rôle que nul autre ne peut assumer.
Avec des difficultés, je suppose qu'il a été difficile, Pascal Bory, de dire à vos administrés de porter un masque, alors que la densité au kilomètre carré en Lozère, c'est pas le métro Châtelet à 18h à Paris, hein.
Alors absolument. Mais alors, ce qui a été particulier en Lozère, c'est qu'il y a eu une mobilisation qui a été initiée quand même par le département de la Lozère pour fabriquer des masques, puisque le problème, on ne trouvait pas de masques. Et la plupart des personnes se sont mobilisées. Assez rapidement, c'est vrai qu'on a quand même repéré les personnes vulnérables. On a quand même eu des directives de la préfecture pour les repérer, hein, pour les suivre. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'habitude, dans le fin fond du monde rural, d'être attentif effectivement aux gens qui peuvent être en difficulté. Alors ces problèmes d'approvisionnement, ça a été un vrai souci au départ. Et voilà. Mais moi je dis que quand même, on a réussi à se mobiliser. Alors moi en plus, j'ai la chance d'être ce qu'on appelle une commune nouvelle avec des maires délégués, donc je ne suis pas tout seul. Hein.
Oui, on en parlera tout à l'heure.
Et ce travail en concertation, en équipe, a été vraiment efficace dans une période qui a été quand même très compliquée.
Et oui. Pour faire face à ce défi de la gestion de la pandémie, l'exécutif n'a eu de cesse de vanter le couple maire-préfet. Mais écoutez ce qu'en disait David Lisnard, le nouveau président de l'AMF avant-hier.
Je me suis laissé dire, parfois même de ministres, ont découvert les décisions en même temps que nous. Et cela s'est traduit par de vraies difficultés opérationnelles.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes des observateurs de la relation politique, notamment à ce niveau municipal, Thomas Frineau ?
Je pense que l'une des difficultés, c'est que historiquement, finalement, l'interlocuteur premier des élus locaux, c'était le préfet, le représentant de l'État sur le territoire. Or, aujourd'hui, on voit bien que le préfet n'a plus la main sur les agences régionales de santé, en quelque sorte. Il y a une forme d'autonomisation, il y a des super préfets sanitaires, mais qui ne sont pas les préfets. Et donc, évidemment, ça complexifie la relation et le dialogue entre les élus et les interlocuteurs d'État. Donc là, je crois qu'il y a effectivement une difficulté, mais qui est presque propre, en quelque sorte, au champ sanitaire. Et puis, par ailleurs, je pense que cette question de la mobilisation des élus locaux dans cette période de crise Covid, elle va aussi ouvrir peut-être une question plus générale sur demain, la place finalement des élus et des communes en matière de santé, dans la politique de santé. C'est en quelque sorte peut-être une fenêtre d'opportunité pour que les élus réclament davantage de considération et de place, en sachant que l'évolution des réformes les a un peu marginalisés depuis 20 ans dans la gouvernance hospitalière.
Alors l'AMF, qui fustige une recentralisation sans précédent, réclame à présent au gouvernement la nationalisation, c'est-à-dire la prise en charge par l'État des dépenses Covid pour les communes et les intercommunalités. Elle évalue la somme à 5 à 6 milliards d'euros. Ça a coûté cher aux finances de Saint-Maur-des-Fossés, le Covid, Sylvain Berrios ?
1,9 million d'euros. C'est le coût sur une année pleine du Covid. C'est 1,9 million d'euros. Et le remboursement de l'État, c'est 305 000 euros. Voilà ce que ça a coûté. Alors, après, on peut là-dedans évaluer tout un tas de choses, hein, des activités, des actions qui ont été portées par une ville. Moi, j'ai souhaité avoir un centre de vaccination extrêmement performant qui anticipe bien au-delà de ce que, et heureusement, de ce que l'ARS voulait. J'ai souhaité acheter des masques là où on nous avait dit que l'État nous en donnerait. Heureusement qu'on l'a fait, puisque les masques ne sont jamais arrivés. J'ai souhaité ouvrir un centre de test PCR parce qu'on voyait bien que les choses n'arrivaient pas. Donc on a pris des initiatives et on a fait en sorte de pouvoir se payer ces initiatives.
Et est-ce que la facture, vous entendez en demander le règlement à l'État ?
Oui, bien sûr qu'on va la demander. On sait très bien que l'État ne payera pas. De toute manière, encore une fois, dans ce genre de choses, il faut être dupe de rien. Le duo préfet-maire n'a pas existé. C'est un leurre, c'est une construction médiatique où on a voulu expliquer qu'il fallait impérativement que les deux s'entendent. La vérité, c'est que les préfets apprenaient en même temps que tout le monde ce qui se passait et que le maire s'était débrouillé depuis bien longtemps pour essayer de faire en sorte que les choses fonctionnent. Et ensuite, est-ce que les relations existaient entre l'un et l'autre, si elles étaient fluides avant ? Elles ont été fuites pendant la crise. Si elles étaient, en revanche, compliquées avant, elles étaient toujours autant pendant la crise. Mais c'est une question de responsabilité et d'intérêt général. En fait, en période de crise, les serviteurs publics se mettent autour de la table pour travailler ensemble. On n'a pas besoin de décréter un duo préfet-maire.
Continuons à parler d'argent. Il y a eu la suppression de la taxe d'habitation qui a plombé les comptes des communes. Est-ce que la situation financière s'améliore avec des communes retrouvant cette année une capacité d'autofinancement proche à celle de 2019 ? Est-ce que c'est votre cas pour la commune Mont-Lozère et Goulet, Pascal Bory ?
Alors absolument, nous on a eu la chance. Donc je disais qu'on a créé une commune nouvelle. Et en créant la commune nouvelle, on a sanctuarisé, disons, la DGF. On a eu une DGF bonifiée pendant 3 ans. On a surtout aussi partagé les investissements dans une commune qui retrouvait du sens. Et là, cette année, on retrouve vraiment de véritables moyens pour nos projets d'investissement. C'est vrai que notre autofinancement, là, en 3 ans, a quasiment doublé.
Et pour une ville de 80 000 habitants comme Saint-Maur-des-Fossés, Sylvain Berrios ?
En fait, c'est moins une ville de 80 000 habitants comme Saint-Maur-des-Fossés qu'une ville comme Saint-Maur-des-Fossés pris dans le tissu institutionnel de la métropole du Grand Paris. En Ile-de-France, on a une région, une métropole, des établissements publics territoriaux, des départements, des communes, parfois des cinquièmes communes. Et tout ça, en réalité, consomme et de l'énergie budgétaire, mais d'ailleurs de l'énergie tout court avec beaucoup de déperditions. Hélas, ça à la fin, c'est toujours les communes qui payent, parce que quand il faut financer toutes ces strates supplémentaires, en réalité, c'est pris sur la fiscalité économique qui devait jusqu'à présent revenir aux villes.
Alors justement, il faut préciser certaines choses. Alors que la tendance politique est à la décentralisation depuis plusieurs années, il y a une politique visant désormais à renforcer les prérogatives et les moyens des communes. Thomas Frinaud, c'est l'intercommunalité qui est une sorte de coopération, à ne pas confondre avec la nouvelle commune qui, elle, est une fusion, c'est ça ?
Oui, tout à fait. La France, contrairement à beaucoup de pays en Europe, notamment au XXe siècle, n'a pas réussi à fusionner ses communes, à réduire significativement finalement son nombre de communes. Et à partir de là, on pourrait dire que la coopération intercommunale est devenue une alternative douce aux fusions, en quelque sorte, et on a assisté à une forme de révolution silencieuse de l'intercommunalité en France. Je dirais de révolution silencieuse pour deux raisons. D'abord parce qu'elle s'est faite de manière très graduelle et croissante, et pas par une rupture brutale. Et puis parce que finalement, elle est peu visible pour le grand public. Mais le problème pour les maires aujourd'hui, et notamment les maires des petites communes, c'est qu'on a poussé très très loin les feux de l'intercommunalité, jusqu'à déshabiller en partie, du point de vue de l'action publique locale, les communes, du moins les plus petites d'entre elles, qui se retrouvent dans des logiques quasiment des fois de paroissialisation en fait des petites communes. Et la question, c'est de savoir comment, dans des intercommunalités qui ont, elles, été fusionnées et sont devenues plus grandes, comment avoir encore une capacité pour un maire à exister institutionnellement et à porter, à défendre finalement les intérêts de sa petite commune, notamment quand ce maire, il n'est ni vice-président, ni dans le bureau de l'intercommunalité, c'est-à-dire le bureau décisionnaire, en quelque sorte, l'instance décisionnaire de l'interco. Donc là, il y a une vraie problématique.
Jean-Victor Roux, problème ? Sentiment partagé.
Je crois qu'on a prononcé ici les mots qui nous amènent au cœur du sujet. On a parlé de métropole, on a parlé de communes nouvelles, on a parlé de l'empilement de ces structures administratives qui ont un effet d'illisibilité sur l'action publique et finalement de dilution de la responsabilité, puisqu'on n'a pas prononcé encore le mot de citoyen. Et je pense que quand on considère la décentralisation et l'efficacité de l'action publique locale, c'est peut-être du point de vue du citoyen qu'il faut aussi se placer. Et aujourd'hui, quand vous parlez des politiques publiques locales et des services publics locaux, il est difficile, quand vous n'êtes pas un expert du droit des collectivités locales, de savoir qui fait quoi et de savoir, du point de vue du citoyen, qui est responsable de quoi. Vous avez tendance à aller voir votre maire parce que c'est l'élu qui est incarné, mais l'intercommunalisation des politiques publiques, c'est un vrai sujet de fond et c'est une difficulté en termes de déprise et de dépossession démocratique.
Est-ce qu'à l'inverse, la commune nouvelle n'est pas, elle, un succès ? Vous en êtes satisfait, en tout cas, Pascal Berry, commune Mont-Lozère et Goulet, qui regroupe, donc, je le disais, 6 communes, enfin, qui a fusionné 6 communes.
Alors, moi, j'en suis d'autant plus satisfait, c'est qu'on a redonné du sens à la commune, c'est-à-dire la commune avec des équipements, avec des moyens, donc ce qui était le sens de la commune quand on l'a créée historiquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les petites communes n'ont plus d'école, dépendent complètement de la commune plus importante à côté en termes d'équipement, ne participent pas au débat démocratique du choix des plus grosses communes. Elles sont plus elles subissent plutôt les choix qui ont été faits. Les intercommunalités, alors entre autres dans notre département, nous, elles sont un petit peu incohérentes. Nous, on a une intercommunalité qui fait 80 km d'un bout à l'autre avec 3 bassins de vie complètement différents, avec de temps en temps des compétences qui, à mon avis, auraient pu rester à la commune, auraient été peut-être exercées plus efficacement. Donc c'est vrai qu'il y a ce débat, c'est vrai que l'intercommunalité, elle n'est absolument pas lisible au niveau des citoyens, alors que la commune nouvelle a gardé dans sa fusion une forme de lisibilité et le citoyen a compris quand même quel en était l'avantage.
Quelle est la marge de manœuvre des maires ? C'est la question du débat du jour sur RFI.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Les maires, peu après son arrivée à l'Élysée, alors qu'il avait annoncé la suppression de la taxe d'habitation, qui est le principal levier fiscal des communes, Emmanuel Macron avait été sifflé lors de sa première intervention au congrès de l'Association des maires de France. Le hashtag « Balance ton maire », lancé un an plus tard sur les réseaux sociaux par la Macronie pour dénoncer les 5680 élus qui avaient augmenté la taxe d'habitation, c'est resté en travers de la gorge de nombreux élus. Est-ce que c'est votre cas, Sylvain Berrios? Est-ce que vous étiez dans les 5680 non?
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, la ville de Saint-Maur a augmenté ses impôts à l'époque pour payer une amende, une taxe inique qu'on appelle la taxe SRU. Mais au-delà de ça...
Qui oblige à avoir des logements sociaux.
La taxe SRU fixe un objectif, et lorsque l'objectif n'est pas atteint dans les temps, quelles que soient les raisons, alors une taxe est prélevée.
11% de logements sociaux à Saint-Maur.
Oui, 11%, la taxe à Saint-Maur est de 7 millions, donc on a augmenté les impôts de 7 millions et, pour pouvoir payer cette taxe, parce que ce n'était pas possible. Mais au-delà de ça, les réformes institutionnelles, avec les créations des métropoles à marche forcée, qui ne fonctionnent pas, la métropole de Marseille ne fonctionne pas, celle de Paris ne fonctionne pas, celle de Lyon, on pourrait en reparler, en tout cas, les Lyonnais, eux, en parlent, non seulement ça ne fonctionne pas, ça coûte de l'argent, et on ne sait pas où est la décision. On supprime enfin la taxe d'habitation et on a supprimé par le passé les taxes économiques. Conclusion de tout ça, on a éloigné les maires de la décision pour avoir des décisions dont personne ne sait exactement qui détient la décision. Et lorsque le citoyen ne sait pas dire derrière une décision qui en est le responsable, alors le mouvement et la démocratie empathie. Il faut être capable d'identifier quel est le bon décisionnaire. Et tout ça coûte beaucoup d'argent. Et la réaction d'Emmanuel Macron et sa vision de la démocratie et de la République, qui est un peu jusqu'à présent une République sans les maires, n'est jamais que le fruit de ce long cheminement qui a visé à effacer les maires. Or, on s'est aperçu, finalement, qu'on en avait besoin.
Oui, il s'est ravisé au plus fort de la fièvre des Gilets jaunes en s'appuyant sur les élus qu'il a transformés en médiateurs. Et puis la traditionnelle venue du chef de l'État à cette grande messe de l'AMF coïncide avec la campagne présidentielle. Rappelons que les parrainages de 500 signatures d'élus nationaux, régionaux, locaux sont nécessaires à tout candidat à la présidentielle pour se présenter devant le suffrage universel. Est-ce que vous avez été déjà démarché, Pascal Bory, pour soutenir un candidat à la présidentielle de l'année prochaine?
Alors pour l'instant très peu, puisque j'ai deux candidats qui m'ont contacté, donc très peu.
Très peu. Et vous, Monsieur Berrios?
Oui, deux candidats aussi.
Vous avez accordé déjà votre signature?
Non, j'ai
vous
pas
le ferez
accordé.
Ou pas?
Mais figurez-vous, je ne sais pas.
Pourquoi?
Je pense que la situation que j'ai décrite à l'instant, qui est celle de l'éloignement du pôle de décision et l'éloignement des préoccupations quotidiennes des maires, fait que les maires sont de moins en moins impliqués dans les politiques nationales, ont été de moins en moins écoutés, et qu'aujourd'hui, avant de s'engager à donner une signature, je pense que beaucoup de maires seront aussi attentifs à ce que les candidats feront de cette signature.
Ces sentinelles de la République, comme vous appelez les maires, Jean-Victor Roux, semblent se lasser de ces relations tendues avec le chef de l'État et peut-être avec le rôle politique qu'on veut leur faire jouer.
Alors, c'était en tout cas la tonalité des échanges hier lorsque le président de la République est venu. Sa prise de parole devant les élus était attendue après ce contexte de crise que vous avez rappelé. Il a de façon assez habile rappelé aux maires qu'ils étaient une composante de l'État, tout en disant que lui-même était le chef de l'État. Donc il y avait une manière comme ça d'affirmer qu'il avait un leadership sur les élus locaux. Effectivement, les maires ont le sentiment d'être... en tout cas sollicité quand l'exécutif rencontre des difficultés, comme lors de la crise des Gilets jaunes, comme lors de la crise sanitaire, mais d'être renvoyé dans leur 22 mètres, si vous me permettez l'expression, dès lors qu'ils demandent des compétences nouvelles, des moyens nouveaux, et qu'on assiste à un mouvement de tension importante sur leurs ressources et même sur leurs prérogatives juridiques. Donc c'est ce déséquilibre-là, cette différence entre le discours et les actes qui dénonce, et c'est encore ce qui a été dit hier, porte de Versailles.
Et puis il y a autre chose dans ce malaise des maires. C'était à l'été 2019, le décès du maire de Signes dans le Var, Jean-Mathieu Michel, qui avait trouvé la mort après avoir été renversé par une camionnette dont les occupants venaient déposer illégalement des gravats. Il est devenu en quelque sorte le martyr, le symbole en tout cas d'incivilité, des agressions verbales, physiques dont les élus sont de plus en plus victimes. Qu'en est-il du respect de la fonction de maire aujourd'hui, Thomas Frineau, avant que je pose la même question à des élus qui pourront nous parler de leur quotidien?
Au-delà de l'événement dramatique que vous venez de citer, je crois qu'il y a un malaise des maires sur la question du rapport au public et de l'agressivité. Il y avait une étude du CEVIPOF il y a quelques années sur les maires qui ne souhaitaient pas se représenter. Et l'une des raisons, c'est en troisième position, l'une des raisons du refus de se représenter, c'était les exigences des administrés. Donc vous voyez, c'est une expression très pudique, les exigences des administrés. Mais en quelque sorte, c'est la question de l'agressivité de plus en plus forte. Et ça n'est pas propre qu'aux maires, parce qu'on le retrouve dans toute la municipalité. Et on le retrouve notamment auprès des agents locaux, des agents municipaux qui sont au contact des publics, parce qu'on le sait qu'il y a un risque accru de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Maintenant, je conclurai sur l'idée quand même que quand on parle du maire à portée d'engueulade, puisque c'est une expression qui a fait fleuresse, naturellement, il n'y a pas de réalité moyenne des maires. C'est-à-dire que le maire à portée d'engueulade, c'est encore plus vrai dans les petites communes que, évidemment, dans les grandes villes, avec des maires urbains qui sont moins proches, moins accessibles, qui ont un entourage. Donc, ce n'est pas une réalité qui se distribue de manière égale, finalement, dans toutes les communes françaises.
Pascal Bory, vous êtes à portée d'engueulade?
Alors, je pense que dans le monde rural, c'est, ou hyper rural, comme on dit en Lozère, c'est un petit peu différent. C'est vrai que les gens, les incivilités, les comportements égoïstes, les comportements agressifs, c'est une réalité, mais je pense qu'on a quand même conservé une certaine signification pour les gens, et la fonction est quand même globalement, moi je dirais, respectée dans le monde rural.
Et dans une grande ville comme Saint-Maur, Sylvain Berriot, est-ce qu'il est devenu difficile pour un maire de maintenir une cohésion sociale de proximité, de faire vivre la citoyenneté républicaine au quotidien?
En fait, faire vivre la citoyenneté républicaine au quotidien, c'est un sujet. Je vous rappelle que le président de la République a été giflé, un Premier ministre a été giflé, que les journalistes sont parfois agressés lorsqu'ils arrivent dans des manifestations et qu'on considère qu'ils sont à parti pris. Enfin bref, il y a assez peu de représentants de l'autorité, si on peut considérer l'ensemble des acteurs que je viens de citer comme représentants de l'autorité, qui soient en permanence respectés comme ils l'ont été par le passé. Et cette espèce de tension exacerbée, et bien sûr, on la vit au quotidien. Un maire d'une grande ville comme Saint-Maur n'échappe pas à la règle. Moi, je suis, je crois, plutôt abordable. En tout cas, je rencontre les Saint-Mauriens au quotidien, jour après jour.
C'est pour vous engueuler ou vous féliciter?
En ce moment, je reçois pas mal de félicitations. Mais d'ailleurs, une félicitation, il y a toujours une demande et une critique. Et au fond, c'est pas mal. Parce que c'est aussi la façon de prendre le pouls des choses. Et être capable de prendre la tomate, c'est aussi être capable de prendre et de désamorcer des conflits. Il ne faut pas imaginer que nos relations sont systématiquement avec des gants de boxe. La relation, elle est ce qu'elle est. Et la façon dont on se parle avec les uns et les autres est le reflet d'une société qui évolue.
Dans son livre « Maire au bord de la crise de nerfs », Martial Foucault estime que les élus souffrent de plusieurs maux. Et l'un d'eux, c'est la complexité des dossiers. Est-ce qu'il est aujourd'hui de plus en plus difficile de savoir bien gérer sa commune compte tenu de l'hypertrophie de la réglementation, Pascal Bory?
C'est que ce que je disais, en créant une commune nouvelle, on a pu embaucher en fait du personnel qui a quand même des compétences et entre autres une secrétaire générale. C'est vrai que les dossiers sont devenus extrêmement compliqués. Il faut passer beaucoup de temps dans sa mairie aujourd'hui. Mais voilà, c'est des choix. Hein. C'est devenu un vrai travail.
Il faut être de plus en plus expert également. Ce qui pose la question rapidement, Thomas Frineau, du statut de l'élu.
Ça, on a un espèce de statut dessiné en pointillé, mais c'est pas un vrai statut, mais c'est un peu un serpent de mer, hein, si vous voulez. Ça fait quand même quelques décennies maintenant qu'on parle de cette question-là, qui renvoie aussi à la question de la professionnalisation en politique, de l'idée d'envisager finalement ces positions politiques comme un métier, une banalisation. Je rappelle qu'en Allemagne, on a des formes de salarisation chez les élus locaux dans certaines Länder. Donc, ça prend à rebours la conception du bénévolat républicain, en quelque sorte.
Et vous le dites, c'est un sujet qui traîne depuis de nombreuses années et dont on reparlera certainement. En tout cas, merci aux uns et aux autres pour vos expertises, vos témoignages. C'était le débat du jour sur Radio France Internationale, réalisé par Laurent Philippot.
Ce samedi, sur...